Transistor.
À l'école, l'élève doit être absolument protégé.
Transistor. Web.
Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes d'Indifférence, l'émission qui traite des handicaps et différences invisibles à travers le vécu d'étudiantes et d'étudiants. Dans le langage courant, quand on parle de handicap, c'est souvent l'image d'une personne en fauteuil roulant qui nous vient à l'esprit. Dans la réalité, 80% des handicaps sont ce qu'on appelle les handicaps invisibles, autrement dit, des handicaps qui ne se lisent pas sur le visage, qui ne se devinent pas au premier regard. Et c'est justement de ces handicaps-là dont on va parler. Aujourd'hui, on accueille Moïra, étudiante en biologie à l'UNES de Lyon et qui souffre de différentes carences. Bonjour Moïra.
Bonjour Marie.
Avant de revenir sur ces carences que tu as et qui constituent ton handicap invisible, je voudrais savoir comment tu te définis. C'est une question que je pose à chaque fois. Est-ce que le mot de handicap te convient ? Est-ce que tu préfères le terme de maladie, de différence, de trouble ?
Alors je pense que je préfère le terme de maladie principalement parce que c'est pas quelque chose qui m'affecte de manière permanente, c'est plutôt de manière périodique. Du coup oui, plutôt le mot maladie que handicap.
Parce que du coup dans ta vision des choses, tu considères que la maladie ça n'affecte qu'à certains moments donnés
et pas. Je trouve que la maladie c'est un terme plus général alors qu'un handicap ça va plus affecter les gens vraiment dans leur quotidien, tous les jours, ou par rapport à certaines actions, mais moi c'est vraiment certaines périodes, certains mois, et après pendant 6 mois je peux n'avoir aucun effet.
Et donc juste pour rappel, une carence, c'est l'absence ou l'insuffisance de certains éléments indispensables au métabolisme. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle carence tu as ou tu as eu et sur quel aspect de ton métabolisme, de ta santé, ça joue à chaque fois concrètement ?
Alors j'ai principalement des carences en fer et vitamine B12 et aussi parfois en vitamine B9. L'effet principal, ça va être sur la fatigue, les capacités de concentration, de mémorisation, et ça affecte aussi pas mal mon moral, ma santé mentale.
Mais est-ce que tu saurais donner des distinctions à chaque fois sur les effets entre chaque vitamine qui manque ou par rapport
au... Comme souvent, j'ai plusieurs carences simultanées, c'est très compliqué de savoir. Et c'est jamais forcément les mêmes en simultané, donc c'est très difficile de vraiment discriminer. Et il y a pas mal de symptômes en fait qui sont similaires entre les carences, notamment la fatigue par exemple.
Et je sais pas si là-dessus tu as déjà posé la question à des médecins, est-ce que eux, même s'ils ne vivent pas, ils sauraient dire vraiment la différence, ou est-ce que même d'un point de vue extérieur c'est compliqué
Je pense qu'il y a peut-être certaines spécificités pour la vitamine B12. Après, déjà j'ai pas tout retenu quand je regardais un peu les symptômes. Et comme y a pas mal de liens en fait entre les différentes carences, donc vraiment je pense que c'est compliqué de faire des différences.
Et du coup, à partir de quand est-ce que tu comprends concrètement que quelque chose ne va pas ?
Alors en fait, moi à la base, je consultais pas du tout pour des carences, c'est juste que j'avais eu des engelures, donc c'était fin 2017.
T'avais eu quoi, pardon ?
Des engelures, donc ce sont des brûlures dues à l'exposition au froid, et j'étais allée voir une médecin pour ça, et comme dans la même période, on avait des suspicions sur le syndrome de Raynaud, qui est du coup un trouble de la circulation sanguine. J'avais passé plusieurs prises de sang et c'est au cours de ces prises de sang où on a découvert une carence assez forte en vitamine B12.
Et est-ce qu'aujourd'hui tu sais s'il y avait un lien entre ces engelures et les carences ou...
Alors a priori pas du tout. Donc j'ai des troubles de la circulation sanguine, mais c'est pas en lien avec les carences a priori.
Toi à ce moment-là, même si tu consultes pour autre chose, donc pour des engelures, est-ce que tu comprends qu'il y a quand même quelque chose d'autre qui ne va pas forcément comme les autres, qui est pas... qui fonctionne ouais, qui fonctionne pas autant.
Après à ce moment-là, du coup, j'étais en train de sortir de TCA, donc
juste TCA, c'est troubles du comportement alimentaire.
Donc c'était pas étonnant que j'ai des carences, c'était pas une grosse surprise non plus. Après, j'étais quand même dans un cursus assez intensif, donc savoir est-ce que je suis plus fatiguée que la normale ou pas, c'était compliqué. Je faisais pas forcément très très attention à mon état à ce moment-là. Et j'avais aussi des facteurs familiaux qui jouaient, donc il y avait vraiment pas mal de facteurs qui pouvaient affecter mon état. Donc savoir à quel point il y avait quelque chose qui n'était pas normal, que je n'avais pas identifié, c'était pas facile.
Parce que du coup, quand tu dis que tu étais dans un cursus intensif, c'est que tu étais en prépa ?
Non, j'étais en double licence à ce moment-là. Donc niveau intensité, ça peut être comparable à la prépa. Après, je n'ai pas fait prépa, donc je ne peux pas savoir. Mais c'était des semaines très chargées. Donc oui, c'était aussi intensif, quoi. C'était peut-être plus intensif qu'une licence, mais après, des étudiants qui font une licence et d'autres choses à côté, ça existe aussi. Donc, c'est pas non plus particulièrement intensif par rapport à d'autres personnes.
Donc justement, le fait que ça soit intensif, mais que d'autres personnes puissent aussi faire des choses à côté, ça t'a pas forcément alarmé sur cette fatigue, sur cette difficulté à faire des choses ?
Non, en plus, j'étais à Paris, voir des gens fatigués à Paris, c'est un peu normal, on va dire.
Concrètement, est-ce que t'en parles autour de toi à ce moment-là, quand tu obtiens ce diagnostic avec des guillemets ?
Bah, à part ma famille proche, donc principalement ma mère et mes sœurs, j'en parlais pas particulièrement. Parce que, je savais pas vraiment quel effet ça avait sur moi, vu que j'étais dedans aussi, donc je pouvais pas voir le avant-après. Donc il n'y avait pas de contexte qui me menait à parler de ça.
Et concrètement, est-ce que, à la fois pour les engelures, à la fois pour les carences, même si à ce moment-là tu ne t'en doutes pas, est-ce que tu mets du temps avant de consulter ? Entre le moment où ça apparaît et le moment où vraiment tu te dis « bon là, il faut vraiment que j'aille consulter ».
À ce moment-là ou plus tard
À ce moment-là.
À ce moment-là, c'est des engelures qui partaient pas. Et comme j'avais aussi une grand-tante sur Paris, elle m'a dit « ma médecin prend des patients et des patientes sans rendez-vous, donc vas-y, et puis ce sera réglé plus vite, quoi. »
Et donc concrètement, tu vas pour traiter des engelures, on te découvre des carences dans certaines vitamines. Comment le ou la médecin t'annonce ces carences-là ?
Je l'ai déjà vu en voyant les résultats de la prise de sang. Et après, elle m'a recontactée parce que c'était pas ma médecin traitante, en fait. Donc après, elle me recontactait en me disant un peu ce qu'il fallait faire comme traitement. Et elle a un peu passé la main aussi à mon médecin généraliste qui était à Blois, du coup, parce que je venais de Blois à la base.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, les médecins, ils sont dans l'optique de trouver une cause, une explication ou pas du tout ?
À ce moment-là, l'hypothèse principale, c'était que c'était une cause d'origine alimentaire. Surtout que j'étais en train de sortir d'une période d'anorexie. Donc ça paraissait un peu logique et très probable, surtout que généralement les carences sont dues à des problèmes alimentaires. Et l'idée c'était que si j'étais supplémentée et que les stocks remontaient, ensuite je n'aurais plus de problème.
Concrètement, est-ce qu'il y a un diagnostic qui est posé, un mot précis, autre que le mot carence ?
Non, il n'y en a pas. Il y a eu plusieurs hypothèses et à chaque fois qu'on a pensé à une maladie et qu'on a testé si c'était ça ou pas, il s'est avéré qu'en fait ça n'était pas ça. Donc pour l'instant, vraiment, on ne sait pas quelle est la cause de ces carences et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les résoudre et que ça arrive.
Mais est-ce qu'aujourd'hui on pourrait considérer ça comme une maladie chronique ou est-ce que c'est encore trop flou et trop sporadique pour considérer ça comme une maladie chronique ?
Il y a eu plusieurs périodes où on a tenté un arrêt de supplémentation tout en maintenant un régime équilibré et où ça rechutait. Du coup, je pense que ça pourrait être considéré comme maladie chronique, mais comme on ne connaît pas vraiment la cause, on ne peut pas vraiment dire que c'est ça à 100%.
Et toi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te soulager d'avoir ce terme-là de maladie chronique ? Si c'était possible et qu'on n'ait pas besoin de connaître la cause pour poser ce mot-là.
Je pense que ça soulagerait. Après, j'ai compris que c'était comme ça et que de toute façon, j'y pouvais pas grand-chose. Donc, dans ma tête, je pense que je le considère comme une maladie chronique parce que ça fait 4 ans que ça dure et que c'est pas réglé. Et 4 ans, j'ai 22 ans, donc 4 ans, c'est beaucoup quand même les 4 dernières années de ma vie. Donc, je pense pas que ça mettrait une grosse différence parce que moi, je le considère comme ça. Et puis après, si ça s'arrête, tant mieux, quoi. Mais si je me dis que non, ça va se finir, etc., je vais juste être déçue par la suite, en fait.
Et donc, au début, tu parlais un peu des effets sur ton corps, sur ta santé. Est-ce que là, tu pourrais peut-être décrire de manière un peu plus précise tu parlais aussi de la question de faire un parcours qui soit un peu intensif. Enfin, concrètement, quels sont les impacts sur ton corps sur ta santé mentale aussi ?
Donc, concrètement, ça va être des semaines, parfois des mois, ça dépend de la carence et de la supplémentation, où je vais être vraiment très fatiguée, je vais beaucoup dormir. Il y a des vacances que j'ai passées, en plus c'est des vacances où je devais réviser mes partiels, où vraiment tout ce que je faisais c'était soit travailler, soit dormir. Ma mère le notait que c'était pas normal en fait. Donc ouais, beaucoup de fatigue, et aussi pas mal de problèmes de concentration, de mémorisation, je vais mettre plus de temps à apprendre des choses. Et aussi je vais avoir plus de problèmes à gérer mes émotions, et comme j'ai pas mal de difficultés personnelles, je vais avoir plus de mal à les gérer, et ça va plus m'affecter. Et c'est en cela que ça va impacter ma santé mentale.
Et justement, tu dis que voilà, soit tu passes ton temps à travailler, soit à dormir, que tu as des problèmes de concentration, etc. Du point de vue de l'extérieur, même si moi je suis pas médecin, donc j'ai pas du tout la capacité de faire un diagnostic, on pourrait aussi imaginer que ça pourrait être un problème psychologique. Est-ce que c'est une piste qui est abordée ou pas du tout?
Là, en fait, comme c'est vraiment à chaque fois que je suis carencée que ça arrive, et pas forcément quand j'ai des problèmes... c'est-à-dire que quand j'ai des grosses difficultés, mais que je suis pas carencée, j'arrive mieux à gérer les problèmes et j'ai un suivi psychologique en parallèle. Du coup, ça permet un peu de faire le point là-dessus. Et c'est vraiment les périodes où je vais être... Ouais, où ma santé physique va être moins stable, où ça va plus... où la santé mentale, en fait, va moins suivre.
Et tout à l'heure, tu parlais de supplémentation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Donc la supplémentation, ça peut être sous différentes formes. Moi personnellement, j'ai eu des supplémentations par voie orale, donc ça pouvait être des ampoules que je versais dans un verre d'eau et que je buvais. Il y a eu des comprimés aussi, j'ai aussi eu des injections et des perfusions, de faire quand vraiment le taux était très très bas.
Et du coup, à travers ces différents modes d'administration, concrètement, c'est la vitamine, c'est le fer qu'on t'administre directement ? Ou il y a d'autres choses qu'on t'administre ?
Non, c'est directement en fait, du coup, soit vitamine B12, B9 ou fer.
Et donc, en plus de tout ça, donc de ces supplémentations, peu importe leur forme, est-ce qu'il y a d'autres choses que les médecins vont te proposer de mettre en place ?
À part des conseils un peu comme je vais pas prendre du café en même temps que mes repas ou juste après un repas, etc. Donc, c'est un peu pour favoriser en fait l'assimilation des vitamines, il n'y a pas de conseils particuliers, on va dire.
Du coup, quand tu dis pour favoriser l'absorption de ces vitamines, est-ce que ça veut dire que concrètement, ton corps peut les recevoir mais a du mal à les garder en lui ?
En fait, on ne sait pas, c'est ça le problème. Par exemple, pour la vitamine B12, il y a une vitamine qui s'appelle la maladie de Birmer, qui est un problème d'absorption. Et il y a différents facteurs qui ont été identifiés comme pouvant poser problème dans l'assimilation. Et à chaque fois qu'on regardait si c'était ça, un facteur X ou Y, en fait, tout allait bien à ce niveau-là. Du coup, on ne sait pas vraiment s'il y a un problème d'absorption ou pas.
Et donc du coup, tout à l'heure, quand tu parlais des différents modes d'administration, tu disais que voilà, c'était possible de le prendre sous forme d'ampoule, etc., mais aussi sous forme de perfusion. C'est quand même quelque chose qui est plus lourd. Comment tu lui, toi, mentalement, d'avoir un procédé comme ça, qui même s'il n'est pas forcément en permanence dans ta vie, est quand même pas anodin non plus
Je pense que pour la perfusion, du coup, ça m'a permis de réaliser que vraiment, c'était quelque chose de pas anodin. Parce que ça veut dire que quand même, je vais passer une demi-journée à l'hôpital pour un problème qui, moi, dans ma tête, était quelque chose un peu abstrait, en fait. Et du coup, là, c'était d'être dans un environnement spécialisé avec une prise en charge particulière, parce que c'était... c'est suite, en fait, à mon premier rendez-vous au service de médecine interne à l'hôpital où j'ai reçu ma première perfusion. Parce qu'en fait, pendant ce rendez-vous, on m'a fait une prise de sang. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que le fer avait chuté, alors qu'un mois avant, il était parfait. Donc, je pense que ça m'a aidé dans la prise de conscience. Après... J'en ai pas eu beaucoup, j'ai dû en avoir 4. Maintenant, je suis que sous comprimé. Donc, c'est pas quelque chose qui va m'affecter au quotidien, en tout cas.
Oui, mais même si c'est que 4, c'est quand même pas rien dans la vie de tous les jours de se retrouver, pas du jour au lendemain, mais de se retrouver dans cet environnement à l'hôpital, qui est quand même un environnement qui peut faire peur. Une demi-journée avec ce truc-là de perfusion, c'est quand même pas rien. Au niveau du mental, quoi. C'est pas... Même si c'est que 4...
Après, moi, c'était un peu un soulagement de... rapidement, je vais aller mieux parce que par comprimé, ça peut prendre du temps. Là, au bout de 2 semaines, c'était bon. Donc, c'était rassurant parce que ça voulait dire un peu... ok, t'as un problème et on te prend en charge rapidement. Il y a une solution qui est assez efficace. Et après, moi, j'avais jamais été hospitalisée avant, en fait. Du coup, j'avais pas d'appréhension particulière à l'hôpital ou de mauvaise expérience avant. Alors que je sais que certaines personnes vont avoir des appréhensions parce qu'il y a eu des hospitalisations avant qui se sont mal passées ou quand elles étaient enfants, il y avait des peurs, etc.
Et donc là, tu disais que le fait de prendre ça sous forme de comprimé, ça peut prendre plus de temps. Aujourd'hui, est-ce que tu as le choix de prendre ça sous forme de comprimé ou de faire ça sous forme de perfusion ?
Actuellement, non. En fait, la stratégie, c'était plutôt que quand c'était très bas, on me donne une perfusion pour que rapidement... je puisse faire ma vie. Là, comme en fait, on contrôle très régulièrement, tous les 2 mois, je vais faire une prise de sang. Donc, rapidement, on peut détecter si je suis en train de tomber en carence, en fait. Et les comprimés, c'est suffisant et ça permet aussi de maintenir un certain niveau.
Et donc du coup, pour revenir au moment où tu as le diagnostic, donc en 2017, c'est ça ?
Pour la B12, oui.
Pour la B12. Donc là, tu te lances un peu dans une recherche de pourquoi. Depuis, est-ce que tu es toujours dans cette recherche-là ou est-ce que tu as une part de toi qui a définitivement abandonné ?
Alors moi, personnellement, j'ai un peu abandonné. Après, au niveau des médecins, au début de ma prise en charge en médecine interne, donc c'était fin 2019, il y avait vraiment une recherche du pourquoi. J'avais été hospitalisée pour passer des examens pour comprendre pourquoi. Après, j'ai eu un changement de médecin parce que celui que j'avais initialement est passé en service Covid et je ne l'ai jamais revu. Le médecin ensuite était plus... pensait en fait que c'était un peu réglé parce que la dernière prise de sang était bonne, donc j'avais arrêté la supplémentation. Et après, j'ai rechuté dans les 40, donc ça c'était en mars 2021. Je l'ai revu depuis et il est un peu dans un entre-deux. Enfin, il veut avoir encore un dernier avis d'un ou d'une gastro-entérologue, mais je pense que ça va pas aller très loin. Enfin, là, c'est plus avoir un avis pour savoir si on refait certains examens ou pas. Mais du coup, on va pas chercher de nouvelles causes. Parce qu'il y a... Enfin, disons que les possibilités, elles ont un peu été toutes explorées.
Et donc là, tu disais qu'a priori, il y aurait de nouveau un rendez-vous avec un ou une gastro-entérologue. Est-ce que c'est pour essayer d'aller vers une autre piste qui n'a pas encore été réfléchie à fond ?
Peut-être. Enfin, après, je pense... J'étais dans un service qui est quand même très compétent sur ces domaines-là, donc je pense pas, enfin peut-être qu'il y a une piste qui n'a pas été explorée, mais c'est quand même très peu probable, je pense. Mais oui, peut-être, enfin, ce serait bien de voir s'il n'y a pas une autre possibilité. Après, personnellement, je ne mets pas trop d'espoir dessus, mais c'est aussi parce que je ne veux pas être déçue ensuite.
Là, tu viens de dire qu'a priori, tu étais dans un service compétent, mais je me pose quand même la question, il y a quand même des maladies, je ne sais pas, Enfin là, en tête, j'ai la maladie de Lyme ou de l'endométriose, qui sont des maladies qui existent, on le sait, et pour autant, le parcours diagnostique est très très long, et le fait de changer de médecin, ça peut aider. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager pour la suite en disant, ok, là, j'ai fait je sais pas combien d'années dans un service avec un groupe de médecins, dans quelle mesure, si je change et que je vais dans un service qui ne connaît pas du tout mes antécédents et qui repart de zéro, j'aurai plus de chances de trouver une explication?
En vrai, je ne sais pas, parce que déjà, le service de médecine interne, c'est assez particulier. Donc, c'est un service où on va s'intéresser à l'état global, aux polypathologies, etc. Donc, c'est un peu là où les médecins vont chercher des causes à des problèmes un peu particuliers. Et les temps d'attente, ils sont très longs pour les rendez-vous. Enfin, j'avais mis plus de 6 mois à avoir mon premier rendez-vous. Quand j'en demande, je dois attendre 3-4 mois, etc. Donc, c'est relativement long quand même. Surtout que je bouge beaucoup, donc je pense que je vais pas forcément m'amuser, mais recommencer quelque chose, ça demande aussi pas mal d'énergie. Et je pense que j'ai pas trop l'énergie de le mettre là-dedans. Mais c'est aussi parce que j'ai vraiment l'impression d'être prise en charge correctement. Après, j'ai pas vu ailleurs, donc je peux pas vraiment dire. Mais les médecins communiquent pas mal entre eux, vont discuter avec d'autres services, etc., pour voir s'il y a d'autres choses, etc. Donc. Je pense pas aller voir dans un autre service.
Tu me disais hors antenne que tu es partie quelques temps en Angleterre. Est-ce que déjà tu pourrais juste nous dire à quand ça remonte, enfin à quelle période ça correspond ?
Donc là, c'était en janvier 2020. Et du coup, j'étais partie pour un stage normalement qui devait durer jusqu'à juin. Et Donc juste avant, en fait, c'est là où j'avais eu des perfusions à la voix parce que mon fer était très bas et aussi en fait pour que j'ai un peu des stocks pour tenir jusqu'à mon retour. Et donc je devais continuer à faire des prises de sang en fait en Angleterre et ça a été assez compliqué parce que en fait un certificat médical, enfin une ordonnance d'un médecin français ou française ne suffit pas, fallait que je repasse par une personne en Angleterre pour que la personne me dise ok, est-ce qu'on fait une ordonnance ou pas. Et donc déjà j'étais tombée sur quelqu'un qui disait que ça ne servait à rien. Et ensuite j'avais vu un autre médecin et l'autre problème en fait c'était que par exemple la vitamine B9 était pas dosée dans le laboratoire où je pouvais aller. Donc pour faire des prises de sang c'était quand même assez compliqué. Parce que ça a demandé plusieurs rendez-vous médicaux et un peu d'argumenter en fait en ma faveur quoi.
Oui, donc à ce moment-là, tu vois pas forcément l'Angleterre comme un nouveau moyen de tester des choses ou de trouver des solutions.
Non, pas du tout. Après, j'étais un peu prévenue. Enfin, ma mère avait vécu en Angleterre et je connaissais un peu le système de santé là-bas. Donc c'était pas une grosse surprise non plus.
Oui, justement, ça correspond à ce que tu disais avant, c'est que, enfin, tu dis que, enfin, t'as fait une des perfusions avant de partir et tu dis pour faire des stocks pour tenir jusqu'à mon retour, c'est que même les médecins français avaient conscience que de toute façon là-bas il y aurait pas une bonne prise en charge.
Je sais pas si c'est eux qui avaient conscience directement ou si c'est moi qui leur avais dit, mais mon suivi était vraiment basé en France et l'idée c'était pas d'avoir un suivi en Angleterre pendant que j'étais en Angleterre.
Et par rapport à tout ça, donc à ce parcours diagnostique qui est compliqué parce qu'on ne sait toujours pas ce que t'as, et par rapport à toutes les difficultés que ça peut engendrer au quotidien pour toi, au niveau du physique, du mental, etc. Comment s'est positionnée ta famille ?
Alors, bah, ma famille, enfin, disons que je communique pas mal avec, enfin, pour la famille proche, et elles sont assez compréhensives, hein, elles me soutiennent, quoi. Il n'y a pas de problème à noter, et puis. Il n'y a pas de jugement où personne me dit « Non, mais il faut que tu manges plus de viande, c'est forcément à cause de ça, etc. » Après, dans ma famille, il y a quand même y a une grosse confiance envers les médecins, etc. Donc personne ne va remettre en cause ce qu'on me dit, forcément. Et on fait confiance aussi.
Et justement, tu dis que dans ta famille, il n'y a pas eu de jugement de type « Il faut que tu manges plus de viande, etc. » Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est des remarques que tu as pu avoir autour de toi ?
Après, enfin, j'ai pas eu ce type de jugement dans ma famille proche. J'ai oublié de préciser. Enfin, par exemple, ma mère et mes sœurs, elles n'ont pas du tout dit ça. Par contre, oui, quand il y a des grands repas de famille à Noël, etc., forcément, il y a les remarques. Non, mais c'est parce que tu manges pas assez de viande, etc. Où chaque personne se prend un peu pour le ou la médecin qui sait tout.
Et justement, dans ce moment-là, comment tu réagis à ces remarques ?
Bah, au début, moi, j'explique que la cause alimentaire, elle a été éloignée par les médecins. Et après, si les personnes persistent, je vais juste... avant de donner le débat, parce que ça sert à rien, quoi.
Et donc, est-ce qu'au début de ce parcours, et donc il y a 4 ans, quand tu... Enfin, quand tout bascule, si je puis dire, est-ce que ta famille, donc là, tu peux être ta mère, tes sœurs, est-ce qu'elles t'accompagnent au rendez-vous, ou est-ce que tu vas un peu seule ?
Bah, je pense... Il y avait un rendez-vous où j'étais accompagnée. Donc, c'était ce que j'avais dû faire, une fibroscopie... Enfin... Oui, c'était une fibroscopie pour voir les voies digestives hautes. Donc là, c'était à Blois, en fait, donc ma mère m'avait accompagnée. Par contre, pour tous les autres rendez-vous, en fait, comme j'étais assez loin, j'y allais seule. Mais c'est pas quelque chose qui me dérangeait particulièrement. Enfin, j'étais stressée par les rendez-vous, mais c'était plus par le résultat que le rendez-vous lui-même. Donc ça m'affectait pas trop.
Juste, tu dis que tu as fait une fibroscopie, est-ce que tu pourrais expliquer en 3 mots ce que c'est ?
Une fibroscopie, c'est on va faire passer une fibre optique dans le corps pour explorer un peu l'intérieur. Et là, c'était pour voir les voies digestives hautes et aussi faire des biopsies, donc des prélèvements de tissus pour ensuite les analyser et voir pour explorer des causes en fait, des carences. Et là, du coup, en gros, c'est un peu comme un test PCR, on passe par la même voie, sauf qu'on continue et on descend ensuite jusqu'à l'estomac, par exemple.
Cette comparaison ne me donne pas du tout envie. Et tes amis, est-ce qu'à ce moment-là, tu leur en parles, donc il y a 4 ans
quand il y a 4 ans, j'en parlais pas du tout. Enfin, il n'y avait pas forcément de contexte particulier. Surtout que c'était une période où on pensait que c'était d'origine alimentaire. Donc, ce n'était pas quelque chose qui revenait souvent, etc. Après, j'ai commencé à plus en parler, du coup, à mon arrivée à l'ENS en 2018. Parce que c'était une période où j'avais des injections. J'ai aussi des moments où j'avais des perfusions, etc. Donc j'avais des, enfin il y a des moments où j'étais pas disponible et je donnais les causes sans problème. Et bah aussi à mes colocs, enfin parce qu'il y a des moments où je suis fatiguée et je le disais. Enfin on se disait entre nous comment on se sentait parfois, donc c'était assez naturel, on va dire.
Justement, là, je voudrais parler un peu de tout l'aspect scolarité dont on n'a pas forcément trop parlé jusqu'à présent. Au début, tu parlais de ta double licence et de la fatigue que tu pouvais avoir à ce moment-là, qui du coup, a priori, était liée aux carences, même si tu ne t'en rendais pas forcément compte. En s'entendant, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours jusqu'à ton arrivée à l'ENS ?
Alors, du coup, après le bac, j'ai commencé une double licence sciences histoire à Paris. Et ensuite, enfin... Donc en milieu de deuxième année, j'ai arrêté la partie histoire du double cursus et je l'ai remplacée par du coup une mineure transdisciplinaire qui était en partenariat avec le muséum. Donc je suis passée d'un parcours donc d'une double licence à une licence plus une mineure, donc c'était un peu, enfin j'avais moins d'heures de cours, j'avais moins de travail personnel à fournir, donc c'était à la fois un choix parce que des matières m'intéressaient plus dans la mineure. Mais je pense qu'il y a aussi la fatigue qui a pas mal pesé pour ce choix. Parce que je sentais que j'avais besoin vraiment d'avoir, de prendre plus de temps en fait, pour me reposer et prendre soin de moi. Surtout que je venais d'avoir du coup, le diagnostic de la carence en B12 et je me suis dit que ça allait être un peu compliqué de continuer de forcer en fait, pour maintenir un rythme et des résultats qui me convenaient. Parce que j'étais aussi assez exigeante envers moi-même, donc ça a pas mal joué.
Mais tu fais quand même le choix de prendre une mineure et pas juste de totalement arrêter et de te concentrer sur ta licence en sciences.
Oui, après la mineure, en fait, elle remplaçait quand même certaines matières. Donc c'était à la fois un truc en plus, mais c'était pas non plus un gros truc en plus par rapport aux personnes qui faisaient que de la biologie, en fait. C'était plus quelque chose où on va faire des disciplines différentes.
Et donc après cette licence-là, qu'est-ce qui se passe ? T'entres à l'ENS direct ?
Alors du coup j'ai fait ça pendant un semestre, donc c'était le deuxième semestre de L2 et en L3 je suis entrée à l'ENS.
Du coup tu entres à l'ENS en biologie, même si tu étais déjà intéressée par les sciences avant parce que tu as fait une licence, dans quelle mesure ce que tu as eu et le fait qu'on ne puisse pas l'expliquer aujourd'hui, ça a pu avoir un impact sur ton choix de faire de la biologie ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas eu du tout d'impact. Enfin, j'ai continué en biologie parce que c'était une matière qui me plaisait. Ouais, bah, je me suis spécialisée progressivement en fait en licence parce que dans le double cursus au départ, du coup j'avais de la biologie, des maths et de la chimie côté sciences. Après j'avais biologie chimie et après j'avais juste gardé la biologie. Donc c'était une spécialisation que j'avais choisie déjà avant forcément de connaître toutes mes carences etc. Et puis en plus en biologie, enfin moi je fais pas du tout de physiologie humaine, je suis dans l'évolution des plantes, donc c'est pas trop en lien.
Et donc du coup, une fois que tu entres à l'ENS, même si à ce moment-là tu prends déjà des supplémentations, est-ce que tu observes encore des difficultés à te concentrer en cours, de la fatigue, etc. Ou est-ce que c'est à peu près stabilisé par ce que tu prends ?
Bah, il y a eu des moments où c'était stable. Après, au niveau des traitements, il y a eu pas mal d'arrêts, reprises, etc. Donc c'est assez complexe. Je ne me rappelle plus des dates exactes. Mais je sais qu'il y a eu des périodes qui étaient assez compliquées. Où oui, j'avais du mal à me concentrer en cours, etc. Pour travailler, c'était plus compliqué. C'est aussi des périodes où je me blessais plus, parce que je faisais pas mal de danse. Et oui, enfin du coup, je faisais moins d'activités aussi, donc je m'isolais plus. Donc ouais, ça m'a pas mal impacté pendant la scolarité aussi. Mais c'était périodique, c'était pas tout le temps.
Oui, c'est une question que j'allais te poser. Enfin, on reviendra après, mais là, la question des études, c'est quand même aussi la question de la vie associative, y compris à l'ENS, où il y a quand même énormément d'associations, etc. Là, tu dis que par exemple, pour la danse, ça t'a un peu posé problème. Est-ce que sur la vie associative, de manière générale, il y a un impact et comment tu vis cet impact-là ?
Alors, moi, enfin, je fais de l'associative, mais j'en ai pas fait non plus. J'étais pas au BDE ou dans des gros trucs, on va dire. Enfin, je suis responsable du club rock depuis longtemps. Et après, on était trois à gérer, donc si jamais il y a quelque chose où je sentais que je pouvais pas le faire, bah, je le déléguais et il n'y avait pas de problème, quoi. Enfin, on est vraiment dans une optique de on se force pas à faire des choses, et s'il y a quelque chose qu'on peut pas faire, bah, on le dit et on ne le fait pas, et quelqu'un d'autre pourra s'en charger, quoi.
Par exemple, je parle de la vie associative, mais je pensais aussi par là à la vie étudiante et donc un peu tout ce qui va avec, les soirées, etc. Typiquement, est-ce que sur ton rapport à l'alcool, est-ce que sur ton rapport aux soirées, donc le fait de beaucoup bouger, de dormir tard, etc., enfin de pas beaucoup dormir du coup, plutôt de se coucher tard, est-ce que ça a un impact ?
Bah, moi déjà, je bois pas d'alcool, donc pour ça, il n'y a pas trop d'impact. Après, par rapport aux soirées, j'aime bien faire des soirées, mais je suis pas quelqu'un qui sort non plus tout le temps. Et quand même, au département de biologie à l'ENS, on a quand même pas mal de boulot. Donc, on fait pas non plus des soirées tous les soirs. Et comme je vivais pas mal en coloc, c'est pas... Enfin, j'avais quand même une vie sociale assez développée, quoi.
Oui, une vie sociale par ailleurs qui faisait que t'avais pas forcément besoin d'aller en soirée, puisque de toute façon, t'en éprouvais pas forcément le l'envie.
Oui, aussi, parfois j'y allais, mais même avec la danse, déjà, ça occupait pas mal.
Et je me demandais, est-ce que à l'ENS, t'as... le droit à des aménagements, que tu les aies pris ou pas ? Ou est-ce que, comme on n'a pas forcément de diagnostic, de toute façon, les aménagements ne sont pas possibles pour toi ?
Si on a droit à des aménagements, après, la question c'est est-ce qu'il y a un aménagement qui me correspond ? Parce que, du coup, l'année dernière, j'avais vu une infirmière, qui d'ailleurs, c'est génial de pouvoir y aller un peu quand on veut, quoi. Et. Oui, j'avais pas mal discuté avec elle et donc à un moment on m'a proposé des aménagements, mais c'est un peu à moi de les choisir. Et par exemple, pour des examens, je vois pas qu'est-ce qui aurait pu m'aider en fait, parce qu'avoir plus de temps, ça va pas forcément m'aider. Décaler une date, si je sais quand est-ce que j'aurai plus de carence, ok, ça peut aider, mais sinon pas vraiment. Donc la question c'est plutôt est-ce qu'il y a des aménagements qui sont utiles et efficaces. Après, donc l'année dernière, en l'occurrence, j'avais demandé des aménagements pour décaler une date de rendu de rapport et de soutenance de stage. Et ça n'avait absolument pas posé problème.
Mais parce que, par exemple, à quel point c'est possible de connaître la fin des carences en termes de date ?
C'est pas trop possible. En fait, c'est un peu le problème, c'est que parfois, ça peut se régler assez rapidement. Parfois, ça fait... toutes les vitamines ne vont pas se régler pareil. Enfin, par exemple, l'année dernière, du coup, en vitamine B12, j'étais carencée à partir de mars. Et ça s'est réglé à partir de octobre. Donc ça dépend aussi pas mal de la supplémentation. Mais je pense qu'il y a des facteurs qu'on comprend pas trop et c'est pas très prévisible.
Et tu disais que y a des choses qui a priori te seraient pas forcément utiles comme un tiers-temps. J'ai l'impression que toi, il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin du tiers-temps dans l'immédiat, mais que sur le long terme, juste savoir qu'ils ont cette possibilité-là et... l'apprendre, même si ils sortent au final 5 minutes après tout le monde et pas une heure après tout le monde, ça les aide et ça enlève une partie aussi potentiellement du stress et de la fatigue qu'ils peuvent avoir à force d'être très concentrés, etc. C'est pas quelque chose qui...
Ouais, je pense que ça peut jouer après. Donc, parce que du coup, là, je suis en 4A. Donc mes derniers partiels, c'était en M2 et c'était à la fin... Enfin, on avait 10 yeux où en fait, c'était... On avait une semaine... Enfin, on avait 10 jours, en fait, de séminaire et juste à la fin, on avait un partiel. Donc ça se prêtait pas trop. Et du coup, vraiment, mes derniers vrais partiels, on va dire que c'était en milieu de M1. Donc ça commence à remonter pas mal. Et à ce moment-là, j'avais pas forcément pris du recul sur ce que j'avais... Et c'était au début où je commençais à avoir des rendez-vous avec la médecine interne, etc. J'en avais pas encore trop parlé autour de moi. Donc c'était pas trop un... Enfin, dans ce contexte-là, j'étais pas forcément prête et je pensais pas que c'était pertinent ou que j'étais légitime, en fait, à demander des aménagements.
Et avec du recul, est-ce qu'aujourd'hui, tu le ferais ? Si ça va quelque chose et que t'avais encore des examens, etc.
Je pense que j'aurais peut-être plus parlé au service médical pour voir... qu'est-ce qui était pertinent de faire ou pas. Enfin, plus demander des avis, en fait.
Et justement, en termes d'avis, tu disais tout à l'heure que tu as vu l'infirmière l'année dernière, seulement l'année dernière. Pourquoi tu ne l'as pas vue avant ? Est-ce que c'est toujours dans cette optique-là de « en fait, je ne sais pas ce qu'ils peuvent m'apporter et du coup, je ne les vois pas » ?
Je l'avais vue un peu, je pense, en L3 au tout début, parce qu'au début, on nous fait remplir une fiche en donnant un peu nos problèmes. Après, j'avais plus trop vu, mais c'était aussi une période en fait où j'avais à la fois pas du tout de suivi psy, j'avais pas trop de suivi médical en fait. Et j'avais revu à la base, pas pour des carences, mais parce que j'avais des problèmes familiaux assez intenses à gérer. Et en parallèle de ça, on a retrouvé que j'avais des carences, donc c'était un peu j'étais un peu au fond du trou quoi. Donc c'était un peu une combinaison de facteurs qui m'avait fait y aller, mais j'avais vraiment attendu d'aller très très mal avant d'aller voir le service médical.
Et je me demandais, alors il y a une question que j'ai écrite telle quelle en demandant si tu ressens de l'injustice. Est-ce que de manière plus générale, tu ressens quelque chose de négatif par rapport à tout ça, à la fois peut-être de la colère du fait de ne pas avoir de diagnostic, ou est-ce que, encore une fois, t'es passé à autre chose et aujourd'hui t'es plus apaisé par rapport à avant?
Bah, c'est pas forcément de la colère, peut-être un peu un ras-le-bol aussi, parce que du point de vue des médecins, quand on me fait arrêter un traitement et que moi, enfin, c'est un peu facile pour moi, mais genre moi j'étais persuadée que ça allait pas se régler comme ça, et le fait d'arrêter un traitement et de me laisser un peu comme ça, c'était pas hyper agréable, on va dire. Donc ouais, c'est plus un ras-le-bol que vraiment de la colère. Mais après, c'est quelque chose que j'ai accepté. Donc peut-être de temps en temps, je vais en avoir marre. Mais l'état global, c'est ouais. Enfin, j'ai plutôt accepté le truc et c'est comme ça. Et il y a quand même des solutions, on va dire. Donc, je dirais que ça va quand même.
Et est-ce qu'il y a quand même des moments où tu as pu toi-même minimiser ce que tu ressentais, les difficultés que tu pouvais rencontrer, etc. À la fois parce que du coup il y avait cette absence de diagnostic, mais aussi un sentiment de je me suis fait à l'idée, tant pis quoi.
Ouais, bah surtout que concrètement les carences en fer, c'est quelque chose qui est quand même assez courant. Donc je me disais c'est un peu une carence comme les autres. Enfin, il y en a plein qu'on a, c'est pas très grave, les gens vivent avec, c'est pas grave. Après aussi, un autre aspect, c'est que les symptômes, ils sont assez aspécifiques. Donc être fatigué, c'est un peu normal. Et puis, par exemple, en début de M1, enfin le premier semestre de M1, la quasi-totalité de ma promo était hyper fatiguée. Donc je me sentais pas forcément dans un état qui était différent des autres. Donc savoir ce qui est normal, pas normal, c'est assez compliqué. Après, il faut quand même identifier des seuils. Enfin, si malgré un sommeil normal, je suis toujours autant fatiguée, c'est quand même qu'il y a un problème. Donc ouais, c'est ça un peu qui est compliqué. Et après, comme je disais tout à l'heure, enfin le fait d'avoir eu des perfusions en hôpital, d'être prise en charge dans un service de l'hôpital, ça permet un peu de réaliser, de concrétiser en fait que non, c'est pas quelque chose d'anodin.
Et on en parlait un peu déjà tout à l'heure avec la question de la licence, des mineurs, etc. Mais au niveau de l'orientation, notamment à l'ENS, tu me disais hors antenne que du coup t'as pas passé la GREG, à quel point ça a joué et à quel point pour l'après, pour une potentielle thèse, ça a joué?
Je pense que pour la GREG, ça a joué un peu, mais pas tant que ça. Parce que, enfin, de base, moi, j'avais pas fait prépa à la fois parce que les matières m'intéressaient pas, mais aussi parce que j'avais pas envie de passer de concours, en fait. Passer une année à préparer un concours, même si la GREG, on dit que t'apprends plein de choses, etc., c'était pas quelque chose qui me tentait, même si l'enseignement, ça m'intéresse aussi. Donc, je pense que dans tous les cas, j'aurais pas fait la GREG. Après, ça a peut-être un peu pesé dans la décision. Parce que la GREG, ça permet quand même d'avoir une solution de secours, on va dire. Même si on peut la perdre. Donc, ouais, pour ça, ça m'a pas trop affecté. Dans ma prise de décision, ça m'a pas tellement affecté. Après, dans les doutes que j'ai eus, ça a pu beaucoup m'affecter. Notamment, par exemple, au fait de faire une thèse ou pas. Parce que la thèse est quand même assez réputée pour être assez difficile. Et aussi parce qu'en recherche, le discours de pas mal de personnes, c'est que quand t'as des problèmes de santé, c'est vu comme une faiblesse et qu'il faudrait que t'abandonnes, tu vas pas tenir, etc. Et il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens. Il y a des personnes à qui on a dit qu'il fallait qu'ils abandonnent, enfin qu'elles abandonnent. Donc c'est plus le discours et le fait de... et le contexte, en fait, l'environnement... qui fait que ça pousse à abandonner et à douter que les problèmes en eux-mêmes. Parce que généralement, quand on a des problèmes, on connaît nos limites. Donc quand on prend des décisions, on ne le fait pas forcément à la légère. Mais les commentaires autour, ça joue pas mal. Surtout que quand on ne connaît pas le milieu, on a tendance à écouter ce que les gens nous disent. En fait, on prend les avis des gens. Donc avoir ce genre d'avis, ça affecte beaucoup, je pense, des décisions. Et ça entretient aussi le problème, parce que du coup, dans la recherche, au final... Il y a peu de représentations de personnes qui ont des problèmes. Et généralement, c'est les personnes qui ont des problèmes qui vont permettre en fait, que ça s'ouvre un peu. Sauf que des maladies ou même des problèmes de santé mentale, ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui. Quoi.
Et du coup, est-ce que tu as pris une décision pour la thèse?
Oui, bah du coup, je pense que je vais en faire une. Enfin, je vais en faire une.
Et enfin, est-ce que tu aurais une recommandation d'ouvrage, que ce soit littéraire, filmographique, musical ou autre, qui t'a aidé ou permis de mieux comprendre, de mieux accepter ta différence, ou simplement que tu apprécies et que tu voudrais partager ?
Oui, alors là, c'est pas trop en lien avec les carences, c'est plus sur la santé mentale. Et du coup, c'est Enfer de Stromae qui aborde le sujet des idées suicidaires. Donc moi, personnellement, ça m'a pas particulièrement aidée parce que j'étais déjà assez ouverte là-dessus. Mais je trouve que c'est très important d'en parler. Et ouais.
Merci beaucoup Moïra pour avoir répondu à mes questions.
Merci.
Chers auditeurs et auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était Indifférence, l'émission consacrée au handicap invisible, diffusée sur Transistor et produite par Marie Brunner.